France Culture.
Et le journal vous est présenté par Marie-Aimée Copleutre.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Plus de 1000 morts en Birmanie après le séisme qui a frappé le centre du pays hier. L'aide internationale s'organise. Chine, Inde et Malaisie envoient des secouristes et du matériel. Mais comment le pays va faire face à cette catastrophe alors qu'il est en pleine guerre civile? Nous en parlerons avec l'invité de ce journal. Drapeau rouge, croissant et étoile blanche transpercent les foules en Turquie. Les manifestants persistent et dénoncent l'arrestation du maire d'Istanbul survenu la semaine dernière. Nous serons sur place avec notre correspondante Marie-Pierre Véro. Allée de magasins vides dans le secteur du bricolage, les Français désertent la quincaillerie et les matériaux. Le géant du secteur européen Kingfisher a déficité de 10% en bourse cette semaine. Analyse dans ce journal. Casque sur la tête et combinaison de protection, les secours cherchent en vain. Les survivants coincés sous les décombres aujourd'hui après le tremblement de terre de magnitude 7.7 qui a frappé hier la Birmanie, mais aussi sa voisine, la Thaïlande. La Thaïlande où le gouverneur de Bangkok a décidé de laisser les parcs publics ouverts cette nuit pour accueillir les habitants qui ne pouvaient rentrer chez eux à cause de la fermeture du métro. Sur place, Valentin Sébron en a rencontré certains.
Sur leur mobylette, deux bénévoles déambulent en pleine nuit dans le parc Chatuchak au nord de Bangkok pour distribuer de la nourriture. Ce sont des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, disent-ils, ou qui habitent près du bâtiment qui s'est effondré. Parmi eux, Oil est venu avec sa femme et ses enfants en bas âge. Il est encore traumatisé.
On se fait du souci pour notre sécurité. Ma femme a vu l'immeuble s'écrouler de ses propres yeux devant elle. Ça fait tellement peur. On nous a dit que des secousses pouvaient revenir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on préfère rester dans le parc. Là, on est loin du danger.
Un peu plus loin, deux jeunes femmes ont installé un tapis sur l'herbe. Homme ne veut pas rentrer chez elle.
Dans mon appartement, il y a une fissure et l'immeuble dans lequel je vis n'est pas droit. Ils sont encore en train de vérifier si tout est sécurisé. Je panique en pensant aux secousses. Je sens que je ne peux pas retourner chez moi.
Juste derrière le parc, les recherches sont toujours en cours pour retrouver les ouvriers de la tour en chantier qui s'est effondrée. Selon la presse locale, 101 personnes étaient encore ce matin piégées sous les décombres.
Valentin Sébron, correspondant à Bangkok de RFI pour France Culture. Retour en Birmanie, là où le bilan est le plus lourd. 1000 morts, annonçait ce matin la junte militaire, plus de 2000 blessés. Et encore, c'est un bilan provisoire, tant les bâtiments, écoles, magasins, temples, pagodes et appartements ont été détruits par le séisme. Catastrophe dans un pays en détresse depuis le coup d'État de février 2021, lorsque la junte a renversé Aung San Suu Kyi, la chef d'État. Depuis, le pays est en guerre civile. Pour nous éclairer, aujourd'hui l'invité du journal, c'est Jacques Leder, chercheur à l'École française d'Extrême-Orient. Bonjour monsieur Leder.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes spécialiste de la Birmanie contemporaine et de son histoire. Alors déjà, en quelques mots, quel est l'état des infrastructures dans le pays actuellement? Sur place, vous avez des connaissances qui parlent de dégâts colossaux.
Effectivement, vous venez de le rappeler, le pays est déjà dans un état désastreux dû à la guerre civile. Vous l'avez rappelé aussi, c'était le coup militaire de 2021 et où les militaires très vite ont fait face à une résistance armée, à la fois menée par ce qui était bien connu des groupes ethniques armés d'un côté, de l'autre côté des forces de résistance pro-démocratique. Donc tout cela a mis le pays déjà dans une situation extrêmement fragilisée, avec un bilan humain qui compte des milliers de morts. Là, les chiffres varient aussi, et c'est donc sur cette situation-là que se passent actuellement les tremblements de terre.
Exactement, vous parliez de milliers de morts, on parle de 5000 civils tués, plus de 3 millions de déplacés depuis 2021. La junte birmane, de son côté, a rapidement demandé de l'aide à l'international depuis le séisme. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour ce pouvoir, pour cette junte qui est pourtant connue plutôt pour son isolationnisme?
Exactement, ça a été immédiatement commenté comme un fait rare, étant donné que cet isolationnisme est enfin double, c'est-à-dire que la junte militaire C'est à plusieurs reprises déjà isolé. C'était le cas quand on revient dans le passé récent, en 2009, avec le cyclone Nargis. C'était encore le cas il y a 2 ans avec le cyclone Mocha. Donc là aussi, 500 000 de personnes qui étaient déplacées. Et évidemment, de l'autre côté, le régime militaire actuellement est un régime, un pays paria, avec lequel on ne veut pas entretenir des rapports, effectivement. Donc il y a là toute une série de questions qui se posent, effectivement.
Et est-ce que l'armée birmane, donc la junte militaire qui contrôle, aujourd'hui on a des chiffres entre 20 et 30% du territoire de la Birmanie, est-ce qu'elle peut utiliser cette catastrophe pour servir ses intérêts et revenir un petit peu au centre du pouvoir en Birmanie ?
Voilà, ce sont là les questions que les experts se posent. Questions pratiques, évidemment, si le gouvernement actuellement, le gouvernement militaire ne contrôle plus qu'un tiers du territoire. Après les progrès qu'a fait la résistance armée, on se pose la question, est-ce que c'est un appel sincère ou c'est une autre manœuvre pour obtenir une certaine légitimité? Mais en fait, quand on a suivi les nouvelles des dernières 24 heures, on a l'impression qu'ils sont vraiment désemparés, quoi. Et on voit donc au moins les pays qui étaient un peu plus proches du régime, comme la Chine, et vous venez de le rappeler, qui envoient des premières équipes de secours.
Et vous parliez aussi, hier encore, la junte birmane a bombardé une partie du nord du pays.
Effectivement, c'est ça ce qui est ahurissant, en fait. Il y a eu des bombardements la dernière année, des bombardements, enfin, d'un vue d'hôpitaux, et pas seulement cela. On a même interdit des cliniques privées parce qu'on a peur que ce soit des médecins qui travaillent avec la résistance. Et puis, effectivement, donc, on pose que si de l'aide arrive entre les mains du gouvernement, ça risque d'être au bénéfice de ceux qui soutiennent le régime, en fait. Mais autre aussi, évidemment, des questions pratiques, quoi, de faire passer, alors qu'il y a évidemment beaucoup moins de présence d'étrangers dans le pays comparé à la période, la décennie de l'ouverture entre 2012 et le coup militaire.
Et dernière question, Monsieur Leder, aujourd'hui, les autorités disent donc 1000 décès, mais on sait que sur les informations, la junte birmane n'est pas transparente, notamment en 2023, il y avait eu le cyclone Mocha, et la junte annonçait 400 morts, tandis que les journalistes sur place, plutôt 600, voire 800 décès. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, sur la transparence ?
Oui, évidemment, pour le moment, c'est encore assez difficile d'avoir une opinion enfin mesurée, etc., qui prenne en compte les événements. Moi-même, là, il y a une heure, une amie m'a dit qu'il y a encore des secousses à l'heure actuelle. Donc, il est certain que le bilan ne va pas en rester aux 1000 morts dont on parle actuellement.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Leder, pour avoir accepté l'invitation dans le journal de France Culture. Deuxième week-end de manifestation en Turquie après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, mercredi dernier. Rassemblement à l'appel du parti du maire d'Istanbul, aujourd'hui le Parti républicain du peuple, le premier mouvement d'opposition dans le pays, protester contre le pouvoir en place. Marie-Pierre Véraud a suivi la mobilisation à Istanbul.
Dans les bateaux qui traversent le Bosphore vers l'Asie, dans les trains qui mènent au rassemblement, la foule scande des slogans hostiles au gouvernement et au président Erdogan. Tous agitent des drapeaux à l'effigie de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République, des drapeaux turcs. C'est le pays qui se soulève pour ne pas mourir, dit Chibane.
C'est comme l'enfer, notre pays, à cause de Tayyip Erdogan. Mais on a un soleil, on voit un soleil. C'est İmamoğlu. Regarde, pourquoi les peuples qui sont ici, pour İmamoğlu, pour démocrates, tous les journalistes dans la prison, on est vraiment soucis. Les jeunes gens dans les prisons, on est vraiment soucis. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous sommes pourquoi ? Pour démocrates. On va continuer.
Droit, loi, justice, le slogan sans doute le plus répété depuis 11 jours que dure ce mouvement de contestation. Ici, sous le soleil, dans une ambiance festive et revendicative, jeunes, moins jeunes, voilés et non voilés marchent d'un même pas. Le CHP, le parti d'İmamoğlu, entend montrer sa force et le soutien de la Turquie au maire d'Istanbul incarcéré. Tous les partis de gauche ont rejoint le rassemblement, les syndicats sont présents en force et une foule immense qui continue d'affluer en rang serré. Demain débutent les congés de fin du Ramadan, opportunément prolongés par le président. Le parti et tous ceux qui sont rassemblés ici promettent de préserver la flamme du mouvement inédit depuis plus de 10 ans. Özgür Özel, le patron du Parti républicain du peuple, détaille ce matin sa stratégie dans un entretien au Monde. Des rassemblements tous les samedis dans différentes villes de Turquie et tous les mercredis soirs à Istanbul. C'est le vrai défi de ce mouvement, tenir dans la durée.
Et depuis le début de la mobilisation, plus de 2000 personnes ont été arrêtées, 260 incarcérées. Après la suppression des aides américaines pour les agences internationales, la santé des réfugiés en danger. Hier, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies alertait 13 millions de personnes déplacées dans le monde sont concernées. En Égypte notamment, où se trouvent 20 000 réfugiés soudanais. Sur place, au Caire, notre correspondante Alice Moreno a rencontré des réfugiés atteints du sida.
Originaire du Darfour, Ola est arrivée en Égypte en 2019. Elle nous reçoit chez elle, en périphérie du Caire. La jeune femme, malade, vit ici avec une de ses filles, tout juste âgée de 3 ans.
J'ai découvert que j'étais infectée par le VIH après être tombée enceinte de ma fille.
Ola ne peut pas travailler, compte sur des associations pour payer son traitement.
Je ne sais pas ce qui va se passer, mes rendez-vous médicaux sont planifiés en mai. C'est à ce moment-là que je suis censée renouveler le traitement.
Elle redoute l'arrêt forcé de son traitement depuis que le Haut Commissariat aux réfugiés a annoncé la suppression de l'aide médicale.
Beaucoup de Soudanais ont vu leur aide coupée. Grâce à Dieu, je suis encore en vie. Je suis jeune, je ne veux pas mourir de maladie. J'ai 2 enfants et je suis responsable d'eux.
Attente et angoisse gagnent la communauté soudanaise. Nour Khalil, directeur de l'ONG Refugees Platform for Egypt, a reçu de nombreuses plaintes de patients.
Les patients essayent de contacter les partenaires locaux pour recevoir des soins et n'ont pas de réponse. Ce qui se passe en Égypte maintenant, c'est comme si on tuait des gens.
Le HCR déplore cette décision lourde de conséquences. Jacob Harem est responsable du pôle santé en Égypte.
Honnêtement, c'est terrible, c'est très lourd. Les États-Unis, notre principal financeur, ont réduit drastiquement leur aide.
Les États-Unis finançaient 1/5 de la totalité des fonds du HCR, une aide suspendue le mois dernier.
C'est l'un des groupes européens plus puissants du secteur du bricolage, Kingfisher, qui possède plusieurs enseignes au Royaume-Uni et en France. Il a vu son action en bourse chuter de 10% cette semaine à Londres. Un décrochage lié notamment aux consommateurs français, puisqu'il est présent en France via les enseignes Castorama et Brico Dépôt, qui ont vu en une année, Diane Berger, leurs bénéfices baisser de 7%.
Castorama et Brico Dépôt ne sont pas les seuls à souffrir. Les ventes baissent de 7% chez Monsieur Bricolage. Des difficultés ont aussi été signalées chez Bricomarché. Et pour Leroy Merlin, le numéro 1 du secteur, le volume d'affaires recule en 2024 de 3,2%. Le résultat, selon Guillaume Muller, spécialiste du marché du bricolage au sein de la société d'études Nielsen IQ, d'une année tendue après une parenthèse dorée liée au confinement.
On est plutôt sur un retour à la normale. Et en parallèle, il y a des facteurs exogènes, en particulier la crise du logement qui fait que les Français, sans doute, ont moins déménagé cette année. Et c'est notamment lors des déménagements qu'on fait des travaux pour le départ ou pour s'installer dans sa nouvelle habitation. Et là, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt les univers de produits typés grands travaux, justement, qui ont le plus souffert cette année. Alors que les petits travaux se sont plutôt mieux comportés en termes de tendance.
Des difficultés et des conséquences déjà très concrètes. L'automne dernier, Leroy Merlin s'est séparé d'une centaine de ses salariés. Castorama a lancé en novembre un plan de départ volontaire à son siège et cette mauvaise passe devrait durer encore un peu.
La situation politique en France inquiète aujourd'hui beaucoup les Français quand même. Ils sont 80% à se dire inquiets ou très inquiets par cette situation politique. Et dans les périodes d'incertitude, on le sait, on consomme moins. C'est pourquoi, de l'autre côté, on a envisagé plutôt un atterrissage 2025 à nouveau sur une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 2%.
Une baisse encore en 2025 avant une reprise possible prévue par Nielsen IQ en 2026.
En Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est arrivé ce matin. Il va rester 4 jours pour tenter d'avancer sur le statut de l'archipel, notamment trouver un accord entre les indépendantistes et les loyalistes pro-français. Un mot du temps ensoleillé toute la journée en France, des températures comprises entre 9 et 18 degrés, un peu de pluie dans l'est, des averses à Lyon et aussi en Corse où elles seront orageuses. C'est la fin de ce journal, il a été préparé avec M. Le Chili à la technique, Élise Leheu.